Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Andrea Cerbi, Fred Film Radio du Festival de Venise. Je suis là avec Lily Einstein, directrice de Locarno. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une des 7 directeurs invités à la cérémonie d'ouverture du festival et le sens de cette invitation a été très clair à tout le monde. Et c'est un sens de montrer qu'on est là et qu'on veut, on voudrait au moins recommencer. Avant tout, je voulais savoir comment a été géré par vous et comment a été géré, soit professionnellement que personnellement, la crise du Covid que a complètement frappé votre festival, parce que vous êtes en août, alors c'était vraiment le cœur du problème. Comment avez-vous géré ça?
Ben nous, en fait, on a avant tout attendu de connaître les décisions du gouvernement suisse, puisque c'est pas finalement les festivals qui décident, en fin de compte, ce qu'ils vont faire ou vouloir faire. Et heureusement qu'ils n'ont pas cette responsabilité sanitaire nationale. Donc, à partir du moment où on a connu les directives du gouvernement suisse, qui était une interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes jusqu'à la fin du mois d'août. On a pris acte hein, de ces annonces et on a choisi un des nombreux scénarios sur lesquels on avait commencé à travailler quand les choses ont commencé à se dégrader au point de vue sanitaire, donc c'est-à-dire on va dire pendant tout le mois de mars. Et voilà, on avait plusieurs options possibles et on a décidé on a vu qu'on pouvait pas faire le festival dans ses conditions physiques habituelles. Donc là, nous, la grosse décision qu'il fallait prendre, c'était si on passait en ligne ou pas. Et finalement, on a opté pour une formule hybride. Donc on a décidé de pas faire nos sélections de longs métrages en ligne au mois d'août. On s'est dit que ce serait pas une façon sérieuse d'accompagner les films et de lancer des nouveaux films, à la fois à cause de la période, parce que c'est en plein milieu de l'été, ça allait être les premières vacances des gens après le confinement. Les films de Locarno aussi, pour une part d'entre eux, sont parfois très radicaux. Donc c'est pas du tout forcément le genre de film qu'on va regarder à la maison.
À la maison le soir, comme ça, ouais.
Oui, avec le portable qui sonne, toutes les petites choses qui nous déconcentrent quand on est chez nous et qu'on regarde un film. Et aussi parce que on savait qu'on serait pas en mesure de présenter le même type de sélection que d'habitude pour les longs métrages, ce qui est le cas de Venise par exemple cette année. Pour Venise, je pense que c'est très positif parce que je pense que ça donne accès à un certain nombre d'œuvres plus marginales à la prestigieuse compétition de Venise et c'est une excellente chose. Mais à Locarno, c'était déjà dans ce style et pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est pas bien que à Locarno, ça existe sans les autres sélections comme la Piazza Grande ou des œuvres plus grand public. Et c'est une manière pour le Festival de Locarno d'introduire dans l'industrie du cinéma un certain type d'œuvre. Et je pense que c'était pas bien de se limiter pour nous à ce type d'œuvre et surtout en ligne. Donc, on a décidé de renoncer à nos sélections de long métrage, toutes sections confondues. On a décidé, en revanche, de garder la sélection, les compétitions de court-métrage et de le faire en ligne. Et ça, je pense qu'on a bien fait parce que ça a très, très bien marché. Et surtout, au-delà des chiffres qui peuvent être communiqués par les uns et les autres sur les festivals qui sont passés en ligne, je pense que c'est une question sur laquelle il faut qu'on travaille et qu'on se donne des règles un peu les mêmes pour tout le monde. Mais dans un but purement d'analyse et de compréhension d'un marché, des habitudes de consommation, de qu'est-ce qui est bon pour les films. Mais c'est un peu d'ailleurs la grosse question des plateformes, hein, que ce soit Netflix ou Amazon ou quoi, mais qu'est-ce que c'est qu'un film vu en ligne? Est-ce que c'est quelqu'un qui a cliqué? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vu tout le film?
Voilà.
Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vu au moins 20 minutes? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vu au moins la moitié? Ou, enfin, qu'est-ce que ça va être la... Qu'est-ce que ça va être le critère, un peu pour définir, juste pour avoir une idée, c'est pas une question de jugement, mais vraiment une question d'analyse. Et ça, je pense que ça, moi, j'aimerais bien demander à, justement, là, je viens d'en parler avec la FIAF. Enfin, je pense que ça serait bien qu'on se donne des guidelines pour nous tous, pour avoir des instruments d'analyse précis. C'est comme la question du genre des films aussi. On n'a pas tous forcément les mêmes outils d'analyse. Or, je pense que pour réfléchir la période et prendre des décisions, c'est important de définir bien les outils d'analyse. Qu'est-ce que le genre d'un film? Comment on calcule s'il y a une co-réalisation avec une femme et un homme? S'il y a deux femmes et un homme? S'il y a deux hommes et une femme?
Voilà, ça c'est
ça. Il y en a, ils comptent des demi-femmes. Il y en a, moi je trouve ça un peu dur de me dire c'est une demi-femme. J'ai un peu du mal. mais s'il y a deux réalisatrices, est-ce qu'on compte deux femmes? Enfin, toutes ces questions-là, en fait, qui sont, est-ce que c'est le genre du film ou le genre des cinéastes? Voilà. Est-ce que on a
c'est inclus... c'est une énorme quantité de questions sur cette, cette chose-là qui doivent être répondues à
exactement.
Un certain
moment. Enfin, voilà. En tout cas, faut les affronter et les définir ensemble. Mais c'est très intéressant. Donc, je pense que tout le monde sera très intéressé à le faire. Faut juste le formaliser. Mais après, voilà. Nous, pour les courts-métrages en ligne, on a vu que ça, comme type de format, en tout cas, ça marche. C'est-à-dire, les gens voient les films en entier. Parce que,
ça fait 15 minutes ou 10 minutes, c'est une...
Alors, il y en a qui font 50 minutes, hein. Mais
donc, quand même, ouais.
Oui, mais il y en a surtout, en effet, qui vont faire entre 5 et 30, peut-être, dans leur grande majorité. Mais 45 films. Donc, ça, pour ça, c'est, je pense qu'on a fait un bon choix aussi, parce que on garantit aussi en tant que festival, on doit quand même offrir des garanties aux cinéastes de la façon dont leurs œuvres vont être vues.
Absolument.
Donc, c'était bien, ça. Après, on a fait deux décisions majeures pour cette édition 2020 très particulière, donc qu'on a appelée For the Future of Films, justement. Donc on a enlevé un peu c'est la 73e édition. Hein, on la considère comme une édition du festival, mais on lui a donné un nom. Et on l'a appelé, voilà, For the Futures of Film. Et on a fait deux gros dispositifs, pas très particuliers, de solidarité, justement, à l'industrie du cinéma. Donc, d'une part, on s'est dit que comme on annulait les sélections de longs métrages, on allait récupérer une partie des prix qui leur étaient destinés et qu'on allait utiliser ces prix pour aider des films dont la fabrication avait été mise en danger, arrêtée par la crise du coronavirus. Donc ça, c'est un projet qu'on a appelé The Films After Tomorrow. Et donc on a fait un appel à projet. On a reçu plus de 500 projets du monde entier de films en cours de préparation, de fabrication. Donc ça allait de la prépa au tournage, au montage. Donc ça, d'une part, on a choisi 20 projets, donc 10 internationaux, 10 suisses. Et d'autre part, on a fait aussi un dispositif de soutien pour les salles de cinéma indépendantes suisses. Donc c'est un peu les deux extrémités de la chaîne. La création d'un côté et puis la diffusion de l'autre, qui est aussi un secteur très violemment touché par
ça,
la crise. Et donc, avec un sponsor du festival, la Mobiliare, ils ont acheté 10 000 billets de cinéma qu'on va distribuer là à partir de octobre pour voir des films dans ces salles-là, en fait, pour soutenir ces salles-là.
Voilà.
Et on a aussi mis en place un petit dispositif où, comme on proposait tous les films en ligne gratuitement, chaque spectateur de films de notre site pouvait faire une donation libre pour les salles de cinéma indépendantes suisses.
Voilà. Et écoute, et vous avez répondu à cette crise de cette façon parce que c'était une chose immédiate qu'on devait faire. Mais à moi un peu plus froide, qu'est-ce que tu penses que ce virus peut changer sur le futur des festivals, s'il y a quelque chose qui peut changer? Ou est-ce que tu penses qu'on va revenir à la normalité avant 2020?
Ah bah avant 2020, non.
Non.
C'est en décembre. Non, ça c'est sûr que non. Non, c'est plutôt à 2021, mais non, je pense pas. Je pense que Berlin aura lieu de façon pas exactement comme d'habitude. Qu'il y aura sans doute encore des mesures sanitaires À Cannes aussi, je suppose. Enfin, je sais pas. Là, ce qu'on entend ici de la part de, des acteurs de l'industrie, tout pays confondu, c'est que pour eux, ça va durer encore un petit moment.
Un petit moment, ouais.
Mais après, entre adapter ces festivals comme ici, avec, on va dire, des mesures accessoires, mais qu'à la fin, il y a des équipes de films, il y a la presse, il y a un public, il y a un film, il y a une salle, il y a les gens. On peut aussi appeler ça un retour à la normale, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est pas comme ce qui s'est passé cette année pour certains festivals.
Non, mais nous, ça, bon, disons que Venise peut donner une un peu d'espoir, surtout, et peut-être un peu d'idées à comment gérer jusqu'à, bon, pour le futur, parce que c'est vrai que vous êtes en août, mais les festivals qui sont en février, janvier, mars, ils doivent prendre des décisions maintenant. Il faut pas attendre. Voilà.
Oui, voilà, exactement. Ben, nous, on a quand même fait des projections à Locarno, parce que quand les salles de cinéma suisses ont eu le droit de rouvrir en début juin, c'était important pour nous qu'il y ait quand même des projections pendant la période du festival. Donc, on avait 3 salles, on a fait 100 de projections avec 4 sections différentes.
Mmh. Ah, c'est pas mal. C'est...
Ouais, c'était beaucoup, bon numéro, en fait. Ouais. Ouais, c'était énorme, en fait. Mais voilà, et donc on a commencé à expérimenter un peu justement les mesures de sécurité, donc les masques, les sièges, la prenotation,
les réservations,
des sièges, comment on allait séparer aussi la partie publique et la partie gens qui parlent sur la scène, si quelqu'un dans le public est malade, toute la salle va en quarantaine.
Mais qu'est-ce qu'on va faire
avec
nous, les
acteurs? Mais nous, on voulait pas que... Non. Si par exemple, moi, la directrice, si je présente toutes les séances,
voilà.
Si je vais en quarantaine au bout de 2 jours, c'est un petit problème. Donc on a fait tout un dispositif pour permettre que ceux qui parlent sur scène étaient que dans des parcours spatiaux différents du public, de façon à ne jamais se croiser... pour éviter ces questions, enfin voilà, ce genre de questions très pratiques. Ouais.
Mais écoute, ma dernière question, c'est est-ce que vous avez déjà pensé à la formule de Locarno 2021 ?
Alors là, non, on commence là. Moi, je vais commencer dans une semaine en fait, en revenant de Venise. Ouais.
Bon, alors merci beaucoup à Lily Einstein, la directrice du Festival de Locarno, qui a été avec nous à nous parler de cette nouvelle vie pour le festival, différentes vies, disons, pour le festival. Merci beaucoup encore. Je suis Angela Cherby pour Fred Film Radio de Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.